Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bienvenue à votre journal de midi, heure de Kinshasa. Match RDC-Colombie, c'est pour ce mercredi à 3h, heure de Kinshasa. Match décisif pour l'avenir de ces deux formations à cette Coupe du Monde. La ferveur monte à travers le pays. Dans ce journal, les atouts et les faiblesses des deux équipes. Nous serons aussi à Matadou, comme un peu partout dans le pays. On ne jure que par la victoire des Léopards, quelles que soient les difficultés. Et face aux débordements habituels qui accompagnent la fin de l'examen d'État, le maire de Matadi anticipe. Et pas de rassemblement des finalistes, pas de défilés improvisés dans les rues et retour immédiat à la maison après chaque examen. Vous suivrez Dominique Kodiambété. Tuberculose dans la prison centrale de Mbushima et Sika confirmé et plus de 70 autres détenus avec des clichés montrant des signes de contamination après un dépistage de masse. Nous en parlons avec notre invité, Dr Marcel Kazadi, responsable de la coordination provinciale de lutte contre la tuberculose. Madame, Monsieur, bonjour. Les Léopards de la RDC jouent leur deuxième match de la Coupe du Monde ce mercredi aux petites heures du matin et face à la Colombie et au Mexique, un match qui pourra déterminer de la suite pour les deux sélections en présence. Toute caresse sans seul rêve, se retrouver au tour suivant. Ce match suscite les passions de tout genre. Malgré l'heure avancée, soit 3h du matin, heure de Kinshasa, cette affiche promet d'être suivie avec passion aussi bien par les amateurs de football que par l'ensemble des Congolais animés par un profond esprit patriotique. Que dire d'autre, Jean Gandou?
La rencontre entre la RDC et la Colombie s'annonce comme un affrontement où l'enjeu risque de prendre les dessus sur la qualité du jeu. La Colombie, forte de ses 3 points, aura impérativement besoin d'une victoire pour se qualifier directement au tour suivant. De son côté, la RDC, revigorée par sa prestation encourageante face au Portugal, devra se surpasser pour venir à bout de son adversaire du jour. Une qualification serait d'autant plus historique qu'elle viendrait prolonger la série des premières réussites déjà enregistrées, à savoir premier but et premier match nul dans une phase finale de la Coupe du Monde. La Colombie, qui part favorite selon les pronostics, pourra s'appuyer sur Luis Diaz et James Rodriguez. Leur talent individuel et leur capacité à créer le danger font de l'attaque colombienne un véritable atout. La RDC mise avant tout sur sa solidité défensive et un collectif discipliné capable de déjouer les plans adverses et de contenir les assauts ennemis. Cette organisation pourrait s'avérer déterminante pour neutraliser l'efficacité offensive colombienne. Cependant, les deux équipes présente aussi des faiblesses. Pour la RDC, le principal point faible reste le manque d'efficacité offensive. Quant à la Colombie, sa défense demeure parfois fragile et peut être prise en défaut, surtout si les attaquants congolais se montrent lucides et réalistes devant le but.
Et à propos de cette rencontre entre la RDC et la Colombie à Matadi dans le Congo central, certains habitants misent déjà sur la victoire des fauves congolais. D'autres estiment que le match sera très disputé, mais qu'il se conclura par le succès des Léopards. Suivez leur pronostic au micro d'Élise Kavira.
Pour soutenir les Léopards, nous sommes suffisamment confiants. Nous n'avons pas d'inquiétude, aucune appréhension contraire. Et sans minimiser l'adversaire, mais nous sommes confiants que nous allons remporter cette victoire à 2-1. À nos Léopards, courage, parce que les félins, c'est un animal qui ne recule devant aucune limite. Ils ont la bénédiction des ancêtres et la victoire est à nous.
Si on a pu faire un match nul avec le Portugal, en tout cas, on n'a plus peur de rien. Hein.
Avec la mentalité que démontrent nos joueurs, je ne vois pas pourquoi j'aurais peur des Colombiens. Parce que Luis Diaz et James Rodriguez seront maîtrisables par notre défense. Que les matchs soient à 3h du matin. Avec mes amis, nous avons prévu de regarder ces matchs dehors dans un bar.
On doit gagner et je sais qu'on va gagner 3-0. Qu'ils ne baissent pas le bras, on est derrière eux, ils font la fierté, non seulement de la RDC mais de l'Afrique.
Personnellement, j'ai comme l'impression que la RDC va jouer ces matchs comme une finale, hein, parce que déjà, avoir une victoire contre la Colombie serait une bonne chose. Ça va nous épargner de faire trop de calculs contre l'Ouzbékistan. Donc, je présage déjà une victoire pour la RDC.
Examen d'État 2026 à Matadi, le maire de la ville, Dominique Kodiambété, sonne l'alerte avant même la fin des épreuves. Face aux débordements récurrents qui accompagnent les célébrations des finalistes, l'autorité urbaine hausse le ton, pas de rassemblement, pas de défilés improvisés dans les rues et retour immédiat à la maison après chaque examen. Ce rappel à l'ordre traduit l'inquiétude des autorités devant des scènes souvent marquées par le vandalisme, des accidents et de troubles à l'ordre public. Le maire de Matadi, Dominique Kodiambété, au micro d'Élise Kavira.
à nos enfants, à nos élèves qui présentent l'examen d'État cette année. Nous leur demandons seulement d'être concentrés. Nous, leurs parents, nous, leurs autorités, nous leur souhaitons bonne chance. Nous les bénissons tous. Alors, nous ne voulons pas de carnaval dans la rue, pas beaucoup d'actes d'exubérance qui dérangent, qui perturbent parfois l'ordre public. Donc, nous décourageons ça, nous ne voulons pas. Parce que souvent, pendant de tels événements, même les gens mal intentionnés en profitent. Alors, pour ne pas donner l'occasion aux personnes mal intentionnées d'infiltrer les carnavals des enfants qui finissent l'examen d'État, nous disons cette fois-ci, les chefs d'établissement, les inspecteurs doivent prendre les dispositions et surtout les services de l'ordre et de sécurité aussi. Et pendant les examens d'État aussi, nous décourageons les maths. Venez à l'école, vous présentez l'examen, vous rentrez à la maison.
En Ituri, les épreuves d'examen d'État se déroulent normalement sur l'ensemble de la province. Et cela malgré l'insécurité qui persiste dans certaines zones et la résurgence de l'épidémie d'Ebola. Le directeur de la province éducationnelle Ituri en rassure. Tous les centres des passations sont opérationnels. Il précise également que des mesures sanitaires renforcées ont été mises en place pour protéger les candidats contre la maladie. Isaac Raymond.
Au total, 55 centres de passation de l'examen d'État sont opérationnels dans la province éducationnelle Ituri 1, dont un centre installé à Kampala, en Ouganda. Selon le directeur provincial de l'éducation nationale, cette situation est le résultat de l'amélioration relative de la sécurité dans plusieurs zones autrefois affectées par l'activisme des groupes armés, notamment dans les territoires de Mombasa et de Djougou. Yvon Mouké.
La situation sécuritaire étant devenue assez calme, tous les centres ont gardé les lieux où ils sont plantés. Nous n'avons reçu aucun rapport selon lequel il y a des inquiétudes quelque part sur le plan sécuritaire. Donc, les examens sont en train de très bien se passer.
Par ailleurs, les mesures de prévention contre Ebola ont été renforcées dans tous les centres d'examen. Des dispositifs de lavage de mains, des thermomètres de contrôle et des mesures de distanciation physique ont été mises en place avec l'appui du gouvernement et de l'UNICEF. Les salles de classe accueillent en moyenne 25 candidats afin de limiter les risques de propagation de la maladie pendant les déroulements des épreuves. Yvon Mouké.
Nous avons instruit les chefs de centre de pouvoir prendre toutes les dispositions pour que toutes les mesures sanitaires soient respectées. Je suis très très satisfait dans la mesure où nous n'avons reçu aucun rapport négatif.
Toutefois, des cas d'absentéisme et de déperdition scolaire sont signalés dans certains centres. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
C'est un tournant historique pour la justice réparatrice dans l'Achopo. Le fonds d'indemnisation des victimes de la guerre des six jours passe enfin de la parole aux actes. Hier lundi à Kisangani, les projets communautaires prioritaires ont été officiellement validés. C'est notamment la construction d'écoles et d'hôpitaux. Des détails avec Jacques Nkonkole.
L'émotion et le soulagement étaient palpables dans la salle des plénières de l'Assemblée provinciale. Victimes, leaders religieux et société civile se sont accordés sur l'essentiel. Réparer le tissu social. Financé par le FRIVAO, les premiers chantiers collectifs vont cibler l'urgence humanitaire et économique. Au programme, la construction d'écoles, d'hôpitaux, de marchés municipaux, mais aussi la réhabilitation des routes de desserte agricole. Le fonds va également appuyer la régie des eaux pour améliorer l'accès à l'eau potable, sans oublier la restauration du mythique site touristique de Chitewagenia et l'érection d'un mémorial. Pour les infrastructures plus lourdes, comme la centrale photovoltaïque ou les stades, le dossier a été transféré au gouvernement central. Sur place, les participants ont promis de veiller à la bonne exécution des travaux. Pour rappel, cet argent provient de millions de dollars versés par l'Ouganda après sa condamnation par la Cour internationale de justice pour ses activités militaires en RDC. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Les audiences foraines ont débuté aujourd'hui mardi au tribunal des grandes instances du Kalemi dans les territoires de Kongolo, province du Tanganyika. D'après le procureur de la République du Kalemi, l'objectif est de désengorger la prison de Kongolo. Il souligne que ces audiences vont permettre l'acquittement possible de certains prévenus. Il souligne aussi que plusieurs détenus préventifs sont incarcérés depuis des années sans être jugés. Nous faisons le point avec Paula Munanga.
10 prévenus sont à la barre ce mardi. Ils sont poursuivis pour viol, meurtre et vol qualifié. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Kalemi, Charles Benjamin Tapale, annonce que les audiences vont se tenir d'une manière successive jusqu'à l'épuisement d'une soixantaine de dossiers. Le programme conjoint d'appui à la réforme de la justice en RDC soutient financièrement l'organisation des audiences foraines du tribunal de grande instance de Kalemi à Kongolo. Signalons par ailleurs que le procureur de la République près, le tribunal de grande instance de Kalemi trouve opportun d'affecter des juges de paix dans plusieurs territoires de la province du Tanganyika. Il s'agit des territoires de Kabalo, Nyunzu, Manono, Moba et Kongolo. D'après lui, les tribunaux de paix dans certains de ces territoires ne fonctionnent pas à la suite de la carence des juges dans ces territoires. Et cette situation met en péril les droits des détenus. Il rappelle qu'il y a pléthore de juges dans les grandes agglomérations. Il propose qu'il y ait des primes pour les juges qui travaillent dans les milieux ruraux afin de les encourager à rester loin des milieux urbains. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Merci Paula. Autre chose à présent, nous sommes pendant la saison sèche à Kinshasa comme dans plusieurs autres provinces du pays. Et si vous l'avez déjà remarqué, pendant cette période, certaines personnes se plaignent un peu plus d'une aggravation des douleurs dentaires. Car ils sont plus sensibles aux difficultés à manger, pour certains patients, la situation devient difficile à supporter. Alors comment comprendre ce phénomène? Réponse avec Christian Makasinga.
Pour cet habitant de Kinshasa, chaque saison sèche rime avec des douleurs dentaires persistantes. Déjà atteinte des caries, elle explique que ses souffrances s'intensifient dès que cette période commence.
Je souffre déjà des caries dentaires, mais pendant la saison sèche, les douleurs deviennent encore plus intenses. Ma joue a même gonflé, ce qui m'a obligé à consulter un dentiste. À chaque saison sèche, mes dents me font énormément souffrir.
Le phénomène que confirme le docteur Sueti Sikutende Peter, spécialiste en dentisterie général.
La saison sèche crée une déshydratation générale au niveau du corps. Et la salive a pour rôle de neutraliser les microbes au niveau de la bouche. Et quand il y a baisse de la salive, c'est comme ça qu'il y a augmentation des microbes au niveau de la bouche. C'est ce qui entraîne des cavitations au niveau des dents, ce que nous appelons communément le caries.
Face à ces risques, les spécialistes insistent sur l'importance des mesures préventives.
Pendant ces périodes de saison sèche, les bien s'hydrater et deuxièmement, c'est bien nettoyer les dents. Bien nettoyer les dents en les faisant au moins deux fois par jour. Et j'insiste que avant de dormir, brosser les dents.
Parlons à présent de cette pratique très courante dans notre pays, mais pourtant dangereuse. L'usage du téléphone au volant continue, hélas, sur nos routes, malgré les risques qu'elle représente pour les conducteurs, les passagers et les piétons. Entre appels, messages et réseaux sociaux, cette habitude inquiète de nombreux usagers de la route à Kinshasa et ailleurs. Magloire Landoumaïmba s'y est penché. Son reportage.
Téléphoner en conduisant réduit la tension du chauffeur et augmente considérablement les risques d'accident, comme les rappellent plusieurs piétons.
C'est mauvais parce qu'une voiture est comme un cercueil roulant. Quand vous transportez plusieurs personnes ou que vous êtes seul dans les véhicules, si vous tenez votre téléphone au volant, la moindre distraction peut provoquer un accident.
Certains chauffeurs reconnaissent eux-mêmes le danger, même s'ils admettent répondre parfois à des appels jugés urgents.
Ces téléphones que nous utilisons ici représentent aussi un danger à tout moment. On peut vous appeler sans réfléchir. Vous décrochez immédiatement. Pourtant, ce n'est pas une bonne pratique. Cela peut provoquer un accident. Vous pouvez aussi recevoir une mauvaise nouvelle qui vous démoralise et vous déconcentre.
Les spécialistes de la circulation routière sont formels. L'utilisation du téléphone détourne l'attention et ralentit les réflexes face à un obstacle ou une situation imprévue.
Ce n'est pas bon de rouler avec le téléphone en même temps au volant. S'il est attrapé par des policiers, on l'amène devant l'OPJ, il doit être sanctionné. Parce que quand il roule comme ça, il peut être distrait. Il y a l'accident qui part. C'est très dangereux.
Les autorités routières rappellent que le respect du code de la route est indispensable pour prévenir les accidents. Elles invitent les conducteurs à éviter toute utilisation du téléphone au volant et à privilégier leur sécurité ainsi que celle des autres usagers.
Actualité internationale.
La Haute Cour du Kenya a déclaré hier lundi le ministre de la Santé du pays coupable d'outrage au tribunal. C'est pour avoir poursuivi la construction d'un centre de traitement d'Ebola destiné à accueillir des patients américains malgré une décision judiciaire antérieure ordonnant l'arrêt du projet. Africa News rappelle que les Kenyans se sont fermement opposés à ce projet et des manifestations meurtrières ont eu lieu depuis l'annonce en mai de la création de ce centre destiné à accueillir d'éventuels citoyens américains évacués de la République démocratique du Congo en raison de cette maladie. Le tribunal avait ordonné l'arrêt des travaux à la suite des plaintes déposées par l'organisation de défense du droit Katiba Institute qui affirmait que des centres étaient développés en secret et sans consultation.
L'invité.
Au Kassai-Oriental, 6 cas confirmés de tuberculose ont été détectés à la prison centrale de Mbujimayi. 76 autres personnes présentent des signes suspects de la maladie. Ces résultats proviennent d'un dépistage massif de 5 jours mené par la Coordination nationale de lutte contre la tuberculose. Le coordonnateur provincial, Dr Marcel Kazadi, s'entretient à ce sujet avec Esther Dalafina.
Bonjour, Dr Marcel Kazadi.
Bonjour, Maman Esther.
Votre coordination a organisé la semaine dernière un dépistage massif de la tuberculose au niveau de la prison. Est-ce que nous pouvons savoir quel a été l'objectif de cette activité?
Merci pour votre question. L'objectif de cette activité était d'arriver à dépister tous les cas de tuberculose qui se trouveraient à la prison centrale. Même le personnel administratif qui travaille là-bas, même les gardiens, tout le monde devait passer à l'examen, de sorte que nous ne puissions pas seulement nous contenter des prisonniers, mais on ne sait jamais, ceux qui les gardent ou ceux qui travaillent là-dedans peuvent aussi être déjà tuberculeux sans qu'on le sache. C'est ainsi que nous avons eu un nombre de 598 personnes qui devaient passer à l'examen. Cet examen commence d'abord par la radiographie du thorax. Et avec l'appareil qu'on a maintenant, on peut savoir si la personne est susceptible de faire la tuberculose ou pas avec seulement la radio qu'on va tirer. Si déjà à la radio, on nous signale que le cliché de cette personne est susceptible qu'il fasse la tuberculose, nous l'envoyons maintenant à l'examen d'une experte où il va donner les crachats pour qu'on puisse nous dire si il fait la tuberculose.
Quels sont les résultats que nous pouvons retenir par rapport à ce dépistage massif?
Par rapport à ce dépistage massif, nous avons eu 192 personnes qui avaient des clichés, on dirait pathologiques. Et ces gens devaient aussi donner leur crachat à la machine d'une experte. Parmi eux, on a trouvé seulement 6 personnes qui ont été positives pour la tuberculose. Mais en dehors de 6 personnes, il y a eu aussi 76 personnes avec des clichés pathologiques parmi les 192.
Par rapport à tous ces cas identifiés, qu'est-ce que la coordination a pris comme mesure?
La mesure, c'est de mettre tout ce monde sous antituberculose, sous les médicaments pour la tuberculose. Tout le monde. Nous allons le faire déjà au début de la semaine ici. Nous venons de terminer l'activité. On va d'abord trier pour savoir est-ce qu'il y a des prisonniers, est-ce qu'il y a des administratifs qui sont malades ou bien parmi les gardiens. Dès qu'on aura terminé avec la liste, c'est ainsi que nous allons mettre tout le monde sous antituberculose.
Faites souvent la relève des policiers. Et si ceux qui sont, par exemple, malades sont déjà partis, comment est-ce que vous allez les repérer?
Je pense qu'il y a quand même des adresses. Un policier, il a son chef. Son chef connaît où se trouve tel policier. Ceux qui le remplacent, on va les chercher.
La coordination a-t-elle déjà tous les intrants pour prendre en charge les 82 malades?
Les intrants sont là pour prendre en charge tous les 82 malades.
Pensez-vous que la prise en charge médicale de tous ces 82 malades déjà identifiés peut résoudre ou éradiquer cette maladie au niveau de la prison centrale de Mbujimayi?
Bien, dire que la prise en charge de ces 82 malades va éradiquer la tuberculose au niveau de la prison centrale, c'est trop dire, puisque si au moins nous avions des salles où on peut séparer ces malades de ceux qui ne sont pas encore malades, ce serait une bonne chose. En ce moment-là, on peut couper cette chaîne de transmission. Mais ils vivent ensemble chaque jour. Nous disons quand même, on les soigne, mais au moins qu'on puisse guérir ceux qui sont déjà malades. On ne sait pas les séparer de ceux qui ne sont pas malades.
Et qui va faire le suivi?
Le suivi sera fait avec l'aide du médecin directeur de la prison. Il a déjà identifié certains prisonniers qui peuvent suivre les autres qui doivent prendre le traitement. Il a ces relais communautaires parmi les prisonniers. C'est eux qui vont suivre les autres qui doivent prendre les médicaments.
Et à quand le prochain dépistage?
Le prochain dépistage pourrait peut-être intervenir à la fin de l'année.
Merci beaucoup, docteur Marcel Kazadi.
Merci, maman Darafine.
Docteur Marcel Kazadi, responsable de la coordination provinciale de lutte contre la tuberculose au Kasaï-Oriental, interrogé par Esther Ndalafina. Et c'est la fin de ce journal, préparé par Alain Irong et Lisetti Kota-Tivoita avec Alain Gola Technique et Babel Pongo-Massimango au micro à la présentation. Donc, merci à vous qui nous avez suivis. Bon après-midi.